plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'excuse d'emblée, il y a 24 heures, j'étais aux Pays-Bas. Donc, je suis un petit peu sous l'effet du décalage horaire et j'ai un petit virus, donc vous m'excuserez si je tousse durant la présentation. Et si ce que je dis est incohérent, c'est strictement dû au décalage horaire et pas du tout au fait que je me perds dans mes pensées. On m'a demandé donc de vous présenter très sommairement l'article que j'ai écrit, donc à la page 840...
C'est une bonne question.
800 quelques des cahiers de propriété.
849.
849, donc, du dernier numéro des cahiers de propriété intellectuelle, où on va demander, donc, d'aborder la question de la responsabilité civile pour l'intelligence artificielle. En fait, si vous feuilletez, vous verrez que l'article traite plutôt de la responsabilité des agents autonomes. Et peut-être vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette expression plutôt qu'intelligence artificielle. Donc, l'agent autonome, qui est plus ou moins synonyme du robot, c'est l'idée donc d'une machine ou d'un outil qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et qui normalement va fonctionner de par lui-même. La raison pour laquelle j'ai choisi agent autonome plutôt que robot, ben c'est simplement parce que je n'aime pas utiliser l'expression robot. Bon, la plupart des gens ici ont une meilleure connaissance que la moyenne des notions liées à l'intelligence artificielle, mais dès qu'on utilise robot à l'extérieur de cette salle, les gens pensent à R2-D2, pensent aux films de science-fiction, et c'est très difficile de leur faire comprendre qu'un robot n'a pas nécessairement une forme humanoïde. Donc, je préfère parler d'agent intelligent ou d'agent autonome. Et donc, question de responsabilité civile, bon, évidemment, c'est dans les manchettes, hein, vous le suivez comme moi, parlons des robots qui ont commis des meurtres dans les dernières années, si on peut utiliser ce vocabulaire, et en fait, on ne peut pas, à mon avis, mais bon, des gens qui sont décédés suite aux actions d'un robot. Donc, il y a un exemple en Allemagne il y a 2 ans, mais ça remonte à bien plus longtemps, en 1981, si ma mémoire est bonne, au Japon également, il y a un robot qui est décédé suite au fait d'un... une personne, pardon, qui est décédée suite au fait d'un robot. C'est le décalage horaire. Donc, un exemple, évidemment, l'exemple relativement récent là, dont on a parlé énormément dans les manchettes l'an dernier, bien, c'est cette voiture autonome qui appartenait à Uber, qui a percuté un piéton qui était, selon la voiture, à bicyclette, mais qu'en fait, était une dame qui poussait sa bicyclette. Et donc, l'algorithme a reconnu une bicyclette et a présumé que la personne irait un peu plus rapidement qu'elle est allée. Et on a évidemment blâmé l'algorithme, blâmé Uber. Le rapport de police est un petit peu plus intéressant, où on constate qu'en fait, la personne qui était derrière le volant, qui devait normalement prendre contrôle de la voiture lorsqu'il y avait une urgence, n'a pas répondu au signal d'alarme de la voiture. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est parce qu'elle était en train d'écouter l'émission de Voice sur son téléphone intelligent. Et donc, c'est très important de savoir quel chanteur allait gagner, vous comprendrez. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, on en parlait ce matin lorsqu'on dit c'est de la faute de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas du tout le cas ici. C'était une erreur humaine. Et on s'en est rendu compte grâce au compte de... j'oublie le nom, là, voyons. Compte pour accéder donc aux émissions de télévision. Netflix, voilà. Au compte Netflix de la dame, on s'est rendu compte qu'elle s'est connectée 5 minutes après avoir commencé sa route dans la voiture et s'est déconnectée quelques secondes après l'accident. Mais tout ça pour dire, bref, qu'on a ces cas répertoriés, évidemment, de plus en plus nombreux, d'agents autonomes principalement, d'agents intelligents également. Les agents intelligents, c'est par exemple des outils comme Siri, qui donc ne fonctionnent pas d'eux-mêmes, mais qui agissent de façon intelligente, pour reprendre l'expression. Je suis très heureux que quelqu'un a souligné ce matin à quel point c'est un peu étrange de parler d'intelligence artificielle, mais puisque c'est l'expression qui est attitrée, utilisons-la. Et donc, plusieurs cas d'agents autonomes, d'agents intelligents qui causent des préjudices. Et la question, évidemment, qui se pose, bien, c'est qui est responsable? On le sait, lorsqu'on lit l'article 1457 du Code civil, pour ceux et celles d'entre nous qui ouvrent leur Code civil, qui ouvrons notre Code civil régulièrement, ceci étant, 1457 n'a pas changé depuis quelques années, donc ça va. On le sait en lisant 1457, hein, 3 éléments, et j'espère n'apprendre rien aux juristes dans la salle. Si j'apprends quelque chose aux juristes dans la salle, je vais vous inviter à revenir passer quelque temps à la faculté. Donc, évidemment, en matière de responsabilité civile, ce qu'on exige, hein, c'est une faute, un dommage, un lien de causalité. Donc, le dommage ici est clair. Hein, dans les deux cas, c'est des pertes de vie. Évidemment, on est allé dans les cas extrêmes, mais on peut penser, par exemple, à Tile, là, le robot ou l'algorithme qui avait été développé par Microsoft, qui avait son propre compte Twitter et qui, à l'intérieur d'une journée, en étant nourri par des trolls, est devenu extrêmement raciste insulter à peu près tous les groupes minoritaires qui pouvaient être insultés. Et donc, on peut voir les dommages aussi au niveau réputationnel. Donc, ce n'est pas simplement une question de perte de vie ou d'accident qui pourrait mettre en danger la sécurité des gens. Mais on voit donc qu'effectivement, on a des dommages. C'est facile à établir. Le problème, évidemment, c'est de relier ce dommage à une faute. Pourquoi? Parce que, on en a parlé ce matin, il y a plusieurs intervenants dans la chaîne de production, appelons-le comme ça, d'un algorithme. Donc, évidemment, il y a la personne qui a conçu l'algorithme, qui l'a créé, qui a fait la programmation initiale, ou en fait, peut-être même que cette programmation-là, à la limite, a été faite par un tiers. Quelqu'un qui a entraîné l'algorithme, qui, encore une fois, peut-être la même personne que les autres, mais pas nécessairement. Il y a quelqu'un qui est nécessairement propriétaire de celui-ci. On en a parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait des brevets. Ultimement, il y a une base de données qui a été utilisée pour entraîner l'algorithme. Cette base de données-là appartient peut-être à quelqu'un d'autre. J'avais un étudiant qui m'expliquait que un étudiant en informatique, que sa thèse de doctorat était sur l'identification de problèmes mentaux à la lecture d'images, donc de cérébrales, et il m'expliquait que dans le fond, c'était effectivement 5 individus différents. Et ultimement, il y a l'utilisateur final. Donc, par exemple, la personne qui va être dans la voiture intelligente ou la personne qui va avoir sa borne Alexa à la maison. Et donc, on a tous ces gens-là qui, techniquement, sont intervenus à un moment ou un autre et pourraient avoir une part de responsabilité. Et donc, la question, évidemment, c'est qui dans tous ces gens-là qui sera responsable, qui aura l'obligation de réparer le préjudice causé par l'algorithme? Plusieurs théories à travers le monde qui ont été développées. J'ai eu le plaisir l'an dernier de passer mon année sabbatique à l'Université William & Mary aux États-Unis et travailler avec des collègues là-bas où on a épluché la doctrine pour essayer d'identifier les différents courants doctrinaux liés à la responsabilité, liés à l'intelligence artificielle. Et on a identifié certains courants. Et lorsqu'on revient dans le domaine en droit civil, évidemment, en common law, il y en avait plusieurs parce que, vous le savez, hein, les torts sont beaucoup plus séparés que le régime de responsabilité lié au Québec ou dans les différents régimes de droit civil. Et donc, on a identifié finalement trois approches différentes, trois principales approches. La première je dépasse un peu. Ces trois approches, évidemment, vont dépendre ou vont devoir être modulées selon, évidemment, le type d'intelligence artificielle, le type d'algorithme, le type d'agent. Est-ce qu'il s'agit d'un agent autonome, d'un agent intelligent ou d'un algorithme beaucoup plus rudimentaire? Et donc, évidemment, la question ne sera pas la même si on parle d'un aspirateur intelligent. Sans passant, c'est un aspirateur intelligent selon la banque de données d'images que j'utilise ou un outil comme Siri ou encore une voiture intelligente. On n'utilisera probablement pas le même raisonnement. Je ne pense pas qu'on a besoin de se questionner bien longtemps qu'est-ce qui arrive si votre aspirateur intelligent, entre guillemets, écrase l'orteil de quelqu'un dans votre maison pour savoir qui sera responsable. Je ne pense pas que c'est une question extrêmement importante pour le milieu juridique, beaucoup moins évidemment que si une voiture intelligente percute quelqu'un. Je pense que c'est plutôt le dommage qui est difficilement quantifiable. Si à chaque fois qu'on se cogne un gros orteil, on peut poursuivre, on peut faire une action collective, je ne suis pas certain que ça va être très, très intéressant. Mais bon, peut-être que je me trompe effectivement. Ensuite, donc, On a regardé, comme je vous disais, de voir quelle est la relation entre l'algorithme et la personne ultimement qui sera jugée responsable. Est-ce que c'est une relation de propriété? Est-ce que c'est une relation d'agence? Et là, on voit le risque justement lié aux différentes appellations qu'on donne à l'intelligence artificielle. Hein? Je vous ai dit qu'on parlait d'agent intelligent dans le jargon. C'est l'expression recommandée par l'Office de la langue française. Mais évidemment, si je parle d'un agent intelligent, ce qui nous vient à l'esprit, c'est un mandat, c'est une relation d'agence, ce qui colore la chose juridiquement pour nous. Et finalement, est-ce que ce serait plutôt une relation de garde? Je suis le gardien de cet outil. Et donc, à la lumière de ces différentes relations, comme je vous disais, on a établi trois principaux régimes juridiques représentés dans la doctrine. Le premier, qui en anglais, on a qualifié de « leave AI alone », donc de rien faire en quelque sorte, d'adopter le régime juridique tel qu'il existe, c'est de simplement utiliser la responsabilité pour le fait autonome des biens. Et on est relativement chanceux au Québec parce qu'on a justement une disposition qui traite du fait autonome des biens. Et donc, on pourrait dire on n'a pas du tout besoin de se questionner ou d'aller plus loin dans le raisonnement. Mais j'ai 20 minutes à combler, donc regardons quand même les deux autres éléments. Le deuxième, c'est d'accorder la personnalité juridique aux agents autonomes. Et on y a fait référence, encore une fois, ce matin, de ce courant qui dit, pourquoi pas dire qu'un robot est une personne. Évidemment, je dis une personne, pas un être humain, il y a quand même une différence. Ce serait une personnalité qui est similaire à celle accordée à une entreprise, plutôt que la personnalité qui est accordée aux êtres humains. Troisième, en fait, je la sous-divise, ça serait la création d'un nouveau régime. Et ce nouveau régime pourrait être basé, encore une fois, sur mille et une possibilités, mais les deux courants les plus couramment utilisés, je m'excuse pour la redondance, ça serait de s'inspirer d'une part du régime lié à la responsabilité pour le fait des animaux, et ensuite un régime inspiré de la responsabilité pour le fait des esclaves. Qui évidemment est un régime qui n'existe plus, mais qui historiquement a certains parallèles intéressants dont on peut s'inspirer. Donc, commençons par le commencement, parlons de la responsabilité pour le fait autonome des biens. L'article 1465, comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, prévoit que le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome du bien. Donc, à première lecture, disposition parfaite pour régler les questions de responsabilité pour le fait des algorithmes. Hein? Fait autonome d'un bien, parfait, c'est le gardien qui est responsable. Évidemment, la notion de fait autonome n'avait pas été conçue par le législateur ou pensée par le législateur comme on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Lorsqu'on regarde dans la doctrine, dans la jurisprudence, la qualification, l'autonomie, on voit que c'est une absence d'intervention humaine directe, mais c'était l'exemple du pot de fleurs qui, il y a un coup de vent, puis mon pot de fleurs qui est sur le balcon tombe sur la tête de quelqu'un qui se promène sur le chemin. Alors, ce n'est pas du tout ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. Donc, on parle d'une absence d'intervention humaine directe et on parle de mobilité ou de dynamisme. Donc, encore une fois, ça renvoie à cette autonomie de mouvement qui est causée probablement par un courant d'air ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas du tout ce que l'on vise ici. Par contre, la rédaction de la disposition est suffisamment large et j'y fais référence évidemment avec beaucoup plus de détails dans l'article en me fiant notamment sur les enseignements, en responsabilité civile, donc Baudouin, Deslauriers et Moore, mais également en analyse économique du droit où on établit finalement que on pourrait très bien s'inspirer de la définition malgré le fait que c'est pas ce qu'on avait en tête, ou de la disposition plutôt. L'autre problème, par contre, qui est un peu plus complexe, c'est de répondre à la question, mais qui est le gardien de cet agent autonome? Parce que ce gardien, donc la notion de garde, renvoie au pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Or, si je reprends ma liste de tout à l'heure, c'est difficile d'établir qui a cette capacité. Deuxième critère pour la garde, c'est la capacité de prévenir les dommages. Encore une fois, je vous ramène à ma liste de tout à l'heure, les six individus que j'ai identifiés comme ça, puis encore une fois, les noms pourraient changer et ça pourrait être des postes qui se croisent. Mais ultimement, qui va être considéré comme étant le gardien entre ces six personnes-là? Surtout lorsqu'on parle d'apprentissage profond et donc d'un algorithme qui va ultimement, d'un agent autonome qui va décider de par lui-même, encore une fois, entre guillemets, de comment agir ou comment réagir à une situation et donc qui, ultimement, ne sera pas sous la garde directe d'une de ces personnes-là. Et ça, ça a poussé certains auteurs à dire, ben justement, bien que notre régime ait une disposition et qui pourrait s'appliquer, pourquoi ne pas aller plus loin? Et c'est une proposition de résolution qui a été proposée donc en Europe, qui a été très critiquée en passant. Je ne veux pas laisser croire que c'est une position qui fait consensus en Europe. C'est loin d'être le cas. Mais on indique donc que plus un robot est autonome, bien moins il peut être considéré comme un simple outil contrôlé par un autre acteur. Et donc, ultimement, bien, on devrait lui accorder la personnalité juridique. Là, vous allez me dire, bien, c'est complètement ridicule. On ne peut pas accorder une personnalité juridique à un robot. Bien, il y a quand même certains arguments qui tendent à soutenir une telle position. D'abord, cette capacité d'apprentissage. J'utilise l'expression avec un énorme grain de sel, mais bon, peut-être. Deuxièmement, l'intelligence. Donc, ce sont des créations, c'est toujours difficile d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas humain, mais ce sont donc des algorithmes qui auraient une certaine intelligence. Mais bon, j'ai eu le plaisir d'animer un panel de discussion la semaine dernière avec Yosha Bengio, et la première chose qu'il a dit, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est stupide. Donc, je me dis, si lui se permet de le dire, moi, je me permets de le répéter. Je me fie aux autorités après tout. Donc, la notion d'intelligence, on peut en reparler, et la preuve de ça, si vous avez vu le match de Jeopardy de Watson, quand Watson avait raison, Watson avait raison. Quand Watson avait tort, par contre, c'était pas simplement quelle est la couleur du ciel et la réponse était rouge au lieu de bleu. C'est quelle est la couleur du ciel automobile. C'était une réponse qui n'avait absolument aucun lien avec la question qui était posée. Donc, je suis pas certain qu'on peut vraiment parler d'intelligence. Une certaine indépendance, une certaine initiative, encore une fois, des expressions plutôt humaines qui ne me convainquent pas particulièrement. Argument un peu plus intéressant, la personnalité juridique a déjà été accordée à des objets, à des icônes, à des bateaux, etc. La personnalité juridique, comme on le sait, a été accordée à des entreprises. Et je peux vous dire qu'à l'époque où ça a été fait, les juristes considéraient que c'était tout aussi loufoque que d'accorder la personnalité juridique à un algorithme. Et l'argument massu, selon ceux et celles qui défendent cette position, c'est Sophia. Donc, Sophia, ce robot à qui on a accordé la citoyenneté en Arabie Saoudite. Mais évidemment, la citoyenneté et la personnalité juridique, ce n'est pas la même chose. Et c'est peut-être un peu cynique de ma part, mais je crois qu'il y a une raison pour laquelle le robot s'appelle Sophia et non Marc. Parce qu'accorder la personnalité juridique à une femme en Arabie Saoudite, la citoyenneté, avec la citoyenneté, normalement, il y a certains droits qui suivent, droit de vote, par exemple, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote en Arabie Saoudite, sauf aux élections municipales pour choisir qui s'occupe des poubelles. Mais c'est ce qui est, encore une fois, c'est dans les articles là, que j'ai lu ça. Évidemment, je n'ai pas validé moi-même. Mais ce qu'on constate, bref, c'est que oui, elle a une citoyenneté, mais dans les faits, la citoyenneté en Arabie Saoudite pour les femmes n'accorde pas énormément de droits. Donc, je ne suis pas certain que ça c'est un argument très intéressant. Et évidemment, bien, les arguments qui, à mon avis, sont plutôt convaincants contre, bien, le premier, c'est la question du patrimoine. Le principe de la responsabilité, évidemment, c'est de dédommager la victime. Or, accorder une personnalité juridique à un algorithme qui n'a pas de patrimoine, ça n'aide absolument pas en matière de responsabilité civile. Et l'autre argument, qui à mon avis est le plus important, c'est qu'on semble créer une adéquation entre intelligence et raisonnabilité. On le sait, en droit civil, le critère, ce n'est pas l'intelligence, le critère, c'est d'être doué de raison. Or, être doué de raison et être intelligent, c'est deux notions qui sont complètement distinctes en droit, tout comme en médecine. Une personne peut absolument être intelligente sans être douée de raison. Et l'exemple typique qu'on donne, c'est le film Rain Man, où le personnage de Dustin Hoffman était un être extrêmement intelligent, mais qui n'était absolument pas doué de raison. Et donc, à quelque part, on peut critiquer cette idée de dire que simplement parce qu'un algorithme est intelligent, si on reconnaît une telle intelligence, qu'on peut considérer que l'algorithme a effectivement pourrait être responsable quand l'intelligence n'a jamais été le critère utilisé. Ce qui nous amène à notre troisième possibilité, si on considère que le statu quo est inacceptable et qu'on dit ben on peut pas aller aussi loin que d'accorder la personnalité juridique aux algorithmes, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben il nous reste à nous créer un nouveau régime propre aux algorithmes, propre à l'intelligence artificielle, propre aux agents autonomes, en s'inspirant lorsqu'on le peut de ce qui existe déjà. Et comme je vous ai dit il y a quelques instants, l'exemple qu'on utilise le plus souvent, c'est celui des animaux, parce que après tout, les animaux sont des êtres autonomes. Hein. On ne contrôle pas nécessairement leur réaction, mais le propriétaire, ici, est tenu responsable pour les faits et gestes de son animal, simplement parce qu'il ne l'a pas contrôlé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le propriétaire et non le gardien. Et le propriétaire de l'algorithme est facile à établir, alors que le gardien est une notion beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, la ressemblance entre l'intelligence artificielle et les animaux est quand même imparfaite. On le sait au Québec, depuis quelques années maintenant, l'animal, est bien qu'il est toujours considéré comme étant un bien, depuis, je pense, donc 2 ans, on a ajouté une disposition, l'article 898.1 du Code, qui nous dit que les animaux ne sont pas des biens. Bref, ils sont soumis au régime des biens, mais ils ne sont pas des biens. Pourquoi? Parce qu'ils sont doués de sensibilité. Et encore une fois, la sensibilité et l'intelligence sont deux choses différentes. Et donc, de considérer l'algorithme comme étant identique à l'animal, ce n'est pas une adéquation parfaite. Dernière possibilité, et j'ai l'impression que je dépasse mon temps, donc j'essaierai d'être rapide, c'est de s'inspirer du régime des esclaves. Régime juridique, donc, réservé aux esclaves, donc aux États-Unis, à l'époque où, évidemment, l'esclavage était légal, où on a évidemment identifié que les esclaves n'étaient pas des êtres humains. Légalement, c'était des biens. Mais des biens qui pouvaient, évidemment, comme dans les faits, il s'agissait d'êtres humains, pouvaient agir de façon indépendante et pouvaient agir de façon qui irait à l'encontre de la volonté de leur propriétaire. Mais comme les esclaves n'avaient aucun bien qui leur était propre, soit ils avaient certains biens là, dans leur résidence ou en fait leur logement, mais ultimement n'avaient pas de forme de propriété claire puisqu'ils n'avaient pas la possibilité d'être propriétaires. Et donc, c'était leur propriétaire qui était responsable de leurs faits et gestes. Donc, il y avait une forme finalement de responsabilité sans faute qui était retenue contre les propriétaires de ces esclaves. Et donc, on pourrait envisager une approche similaire pour les algorithmes, pour les agents intelligents. Donc, à la lumière de tout ça, bien, quelle approche adopter? Et je vous donne ma position simplement parce que c'est moi qui ai le micro, mais la vôtre est tout aussi juste, j'en suis certain. Bien, j'aime bien citer ce passage, une conférence qui a été donnée par le juge Easter Brooks lorsqu'on a commencé à parler du droit d'Internet, de savoir est-ce que le droit du cyberespace doit être différent, est-ce que finalement on doit adopter un nouveau droit adapté au web. Et c'était tout un débat à l'époque pour savoir finalement comment on allait gérer le web. Et le juge Easter Brooks est plus ou moins dire, les avocats en fait sont très mauvais en tant qu'oracle. À chaque fois où un avocat a essayé de prédire ce qu'allait se passer en matière de technologie, on s'est plus ou moins trompé. Et donc, la dernière phrase est particulièrement percutante. Hein? « The blind are not good trailblazers. » c'est pas une bonne idée de suivre les aveugles comme guide sur le chemin. On constate effectivement que là où on a tenté de légiférer en matière de responsabilité pour les algorithmes, on s'est déjà trompé. Et le meilleur exemple, c'est pour les voitures intelligentes, justement. Il y a déjà une vingtaine d'États aux États-Unis qui ont des lois. Le district de Columbia, donc Washington, a également sa propre loi. Et à Washington, que dit la loi? La personne qui est assise derrière le volant dans une voiture intelligente est responsable. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de volant dans la voiture? Ça, on ne le sait pas, par contre. Et donc, ils vont devoir changer leur loi dans quelques années ou encore simplement refuser qu'il y ait des voitures qui n'ont pas de volant qui puissent être utilisées. Donc, à mon avis, soit le droit tel qu'il existe actuellement, la disposition du Code civil 1465 n'est pas parfaite, mais je pense que de commencer à légiférer, de créer un nouveau régime, de tout bouleverser les choses à ce stade-ci est probablement et n'est pas conseillé si on se fie, encore une fois, sur l'histoire. Donc, sur ce, je comprends que les questions iront à la fin. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la manette à mon voisin.